Il y a 2 ans, une partie de la France enfilait un gilet jaune, première journée d'action et naissance d'un mouvement social inédit qui a surpris par son ampleur, par sa forme et sa durée. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Quel est son héritage? Bonjour Emmanuelle Rengoat.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Et depuis 2 ans, vous menez différentes enquêtes sur ces gilets jaunes. D'abord, ce mouvement est-il mort aujourd'hui?
Alors non, il n'est pas complètement mort. Moi, par exemple, sur le rond-point que je suis, il y avait encore du monde samedi. Aujourd'hui, il y aura encore du monde. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui se sont désengagés, mais il y en a une partie qui ont continué.
Et est-ce que la crise actuelle pourrait les remobiliser?
Alors ça, c'est difficile à dire, mais ce qui est certain, c'est qu'un des effets du mouvement, même s'il n'est pas très visible, parce que le mouvement s'est beaucoup développé à l'échelle locale, c'est d'avoir développé des réseaux de gens qui se connaissent, qui s'entraident, mais aussi des réseaux potentiellement politiques ou de protestation, donc qui peuvent se remobiliser effectivement sur les objectifs gilets jaunes, mais aussi, pourquoi pas, sur d'autres luttes. On a vu ça, c'est arrivé.
Et est-ce que les profils correspondent, les profils des personnes qui sont particulièrement victimes de la crise aujourd'hui, notamment, ben voilà, on entend beaucoup les petits commerçants en ce moment, et ceux qui étaient gilets jaunes il y a quelque temps, est-ce que ça correspond?
Alors, ce qui est certain, c'est que les motifs pour lesquels les gilets jaunes s'étaient mobilisés n'ont pas disparu. C'est-à-dire que les questions de pouvoir d'achat, puis ensuite plus largement les questions d'inégalité, d'injustice sociale n'ont pas disparu. Et une partie des gilets jaunes vont être très impactés par la crise, puisqu'une partie d'entre eux, c'était beaucoup de classes moyennes et en partie des classes populaires aussi précarisées. Donc c'est certain qu'une grande partie d'entre eux va être impactée par la crise. C'était pas essentiellement des petits commerçants, mais il y en avait aussi parmi les gilets jaunes. Donc oui, on peut penser que les raisons de se mobiliser ne vont pas manquer.
Pourquoi ce mouvement s'est-il peu à peu essoufflé?
Alors on peut quand même rappeler que c'est un mouvement qui s'est essoufflé progressivement, mais qui a été particulièrement long, surtout au vu du fait qu'une partie des gilets jaunes ne s'était jamais mobilisée, c'était des primo-contestataires. Donc c'est impressionnant de ce côté-là de savoir qu'il a duré. Ensuite, il s'est petit à petit défait pour plusieurs raisons. D'abord l'essoufflement, il y a des gens qui se sont investis très très fort pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Donc au bout d'un moment, il y a un coût personnel, il y a un coût professionnel à ça. Il y a eu aussi une répression qui a été très importante, à la fois de la part des forces de l'ordre, mais aussi judiciaire. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont eu des amendes, des procès, donc ça a contribué à la démobilisation. Et puis, tout simplement, le confinement, ces 2 derniers confinements ont évidemment rendu beaucoup plus difficiles les collaborations et les protestations.
Et au final, qu'ont-ils réellement obtenu, ces gilets jaunes?
C'est une bonne question. Écoutez, quand vous le demandez à ceux qui sont encore là, ils considèrent qu'ils n'ont pas obtenu grand-chose ou pas suffisamment. En tout cas, pas la démission du président qui demandait, mais plus précisément sur le plan politique et économique, ils sont loin d'avoir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un niveau de vie amélioré, un système où ils peuvent plus participer et contrôler les dirigeants ou influer sur les prises de décision. Donc clairement, c'est pour ça qu'ils continuent à se mobiliser. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est que pour une partie d'entre eux, leur vie a changé. Il y en a qui sont sortis de l'isolement et qui ont trouvé des réseaux amicaux, des réseaux d'entraide. Et puis, il y en a une partie d'entre eux aussi qui a transformé son rapport au monde et son identité. Ils se sont devenus des sujets politiques, des citoyens. Ils ont retrouvé une identité civique très positive. Ça, c'est vraiment un des côtés positifs qui a apporté le mouvement pour beaucoup d'entre eux.
Est-ce qu'on peut dire quand même qu'ils ont réussi sur un point, justement, l'origine de ce conflit, hein? Ils étaient contre le projet d'une taxe sur le carburant. Elle n'a pas été mise en place, cette taxe. Ça, au moins, ça a fonctionné.
Oui, ça au moins ça a fonctionné. Et puis c'est un mouvement qui a réussi au sens où il a beaucoup fait parler de lui. Ça a été un mouvement d'ampleur inédite. Dans nos dernières enquêtes, on est à plus de 10% de la population qui serait en âge de voter, qui serait allée au moins une fois sur un rond-point ou dans une manifestation. Donc là-dessus, il a réussi. Et puis s'opposer à l'augmentation du prix de l'essence, oui, il a réussi aussi. Mais ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que ce qu'on voit aussi dans nos enquêtes aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on a pu penser ou entendre parfois au début, les gilets jaunes ne sont pas du tout particulièrement anti-écolo. En fait, les gilets jaunes, quand on regarde les réponses aux enquêtes par questionnaire qu'on est en train de faire, on voit qu'ils sont écolo ou anti-écolo comme les autres. En fait, ils sont très proches du reste de la population là-dessus. Donc l'augmentation à la taxe sur le prix de l'essence était surtout liée au fait qu'ils ont des mobilités contraintes. Il y en a beaucoup qui sont obligés de prendre leur voiture. Mais quand on les interroge, ils sont tout à fait prêts, s'il y a des aides gouvernementales, à acheter des voitures électriques ou des vélos électriques ou prendre des transports en commun, etc.
Vous soulignez le côté novateur de ce mouvement qui s'est construit en dehors des structures traditionnelles comme les partis ou les syndicats. De ce point de vue-là, est-ce qu'il a apporté un bouleversement durable? Est-ce que, je ne sais pas, justement, les partis et les syndicats se sont remis en question, s'interrogent sur eux-mêmes ou finalement, non, c'est reparti comme en 40 pour eux?
Bah écoutez, je l'espère pour eux parce que effectivement, vous avez raison de souligner que c'est une grande nouveauté ou une grande caractéristique des Gilets jaunes de cette mobilité sans syndicat, sans parti. C'est pas les seuls, c'est-à-dire que c'est une caractéristique qui de pas mal de mouvements sociaux de ces dernières années. C'était la caractéristique de Nuit debout aussi. On s'en souvient en 2016. C'était ailleurs aussi chez les indignés.
Ils faisaient tous appeler Camille en plus.
Aux États-Unis. Oui, tout à fait, exactement. Avec cette idée que, ouais, Camille, c'est l'idée qu'on fait prôner le collectif, c'est-à-dire qu'on met pas en avant un représentant, un porte-parole. C'est le même principe. Et donc, effectivement, là, il y a un travail très, très important à entreprendre pour les organisations traditionnellement représentatives, pour ne pas perdre cette capacité à être des intermédiaires pour transmettre des revendications politiques aux décideurs.
Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui...
J'espère que les syndicats se sont mis en cause.
Mais pour le moment, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de quelque chose, une réflexion qui est en cours, en tout cas, qui serait connue.
Écoutez, là-dessus, mon avis personnel, c'est que les partis ont du mal à s'adapter à la demande de participation qui émerge depuis ces 20 dernières années de plein de groupes sociaux. Ce qui est intéressant chez les Gilets jaunes, c'est qu'on a, je vous le disais, en partie des classes populaires qui sont très peu habituées aux contestations et dont on a coutume de dire qu'elles sont éloignées du politique. Et là, elles montrent que, ben non, pas du tout, elles sont capables de se mobiliser, de produire des revendications, etc. De la part des syndicats, c'est quand même un peu plus nuancé que ça. C'est-à-dire qu'on a des syndicats qui ont bougé lentement, qui n'ont pas vu le mouvement venir. Le mouvement, il est aussi issu de milieux professionnels qui sont assez éloignés de la tradition syndicale. Mais les syndicats se sont quand même alliés ou ont tendu des mains, on va dire, aux Gilets jaunes. Et puis, les Gilets jaunes étaient très, très critiques des directions syndicales. Mais à l'échelle locale, on a quand même eu des collaborations, notamment de la part de Solidaires, où il y a eu des prêts de locaux, des prêts de matériel pour imprimer des tracts, etc. Et il y avait des syndicalistes sur les ronds-points.
Et à l'échelle locale politique, est-ce que vous avez l'impression que les élus locaux ont été plus réceptifs et qu'aujourd'hui encore, il en reste quelque chose?
Alors, ça a été très différent selon les terrains, les relations avec les autorités, notamment effectivement avec les maires. Ceci dit, oui, on peut penser qu'ils ont été plus réactifs parce que de fait, ils étaient confrontés, on va dire, plus directement aux
Bien
Gilets
sûr.
Jaunes, et qui, au début du mouvement, ont su mettre la pression sur les élus. Donc, il y a beaucoup d'élus, de petits élus, entre guillemets, qui sont venus voir sur les ronds-points, etc. Ensuite, on peut penser effectivement que ça a eu un effet aussi, en partie, mais assez, assez limité sur les municipales. Il y a quelques listes de Gilets jaunes ou listes qui ont intégré des Gilets jaunes. Et on peut penser que peut-être sur les problématiques, mais ça, faudra regarder. Hein. Les enquêtes sont encore à venir. Ça a joué un peu, mais ça n'a pas eu un impact fort sur la structuration des partis ou des groupements politiques, on va dire, aux élections. Pour l'instant, c'est sûr.
Merci, Emmanuelle Rongoat, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Vous étiez l'invitée du 5-7 à l'occasion des 2 ans du mouvement des Gilets jaunes.